reprendre avec Nicolas Veilparo, qui m'accompagne dans cette aventure là depuis quelques années. Et donc, qui est maintenant, on est tous très contents, directeur d'études à l'École pratique de hautes études. Et là, par contre, je suis un tout petit peu inquiète, parce que vous avez vu que je défendais quand même très fortement l'héritage médiéval dans la science de la Renaissance. Mais alors, en ce qui concerne l'attraction magnétique, l'héritage médiéval, si, c'est un peu inquiétant, non ? On va voir.
Oui, alors j'ai donné ce titre effectivement pour cet exposé. Alors je remercie évidemment le Centre Poitiers et Sabine Rombeau d'avoir pensé à moi pour cette journée. Donc j'ai parlé de l'héritage de la science médiévale dans la science renaissante et moderne. Bon, j'ai un peu contracté, on va voir pourquoi. Entre la science scolastique médiévale et la science moderne, il y a la science de la Renaissance. Et la science de la Renaissance confronte l'historien à de sérieux problèmes de définition et de caractérisation. L'évaluation de la part de permanence de la science médiévale et celle de renouveau, liée à la réémergence de courants philosophiques jusque-là oubliés ou inconnus. Cette question de l'évaluation, donc de la continuité du renouveau, pour aller vite, a donné lieu à de nombreuses contributions, et je vais essayer plus modestement de saisir ce jeu complexe des arguments hérités du Moyen-Âge ou renouvelés au XVe et XVIe siècle pour un problème précis de la physique, à savoir l'attraction magnétique. Après une brève présentation de l'héritage médiéval, la question du renouvellement doctrinal dans les spéculations sur l'attraction magnétique sera abordée. Et puis, je me focaliserai plus précisément sur une question qui me semble à la fois ambiguë et significative, celle de la thèse de l'animation de l'aimant. Donc, pour commencer, je veux rappeler qu'au Moyen-Âge, les discussions autour de l'attraction magnétique débutent et se déroulent pour l'essentiel dans un contexte universitaire et dans un contexte textuel très précis. C'est en effet dans les commentaires de la physique d'Aristote que la question est posée. Les discussions se concentrent prioritairement sur le début du livre 7 de la physique d'Aristote, où Aristote énonce ce qui est parfois appelé l'axiome contiguiste, c'est-à-dire que tout moteur, durant tout le mouvement, doit rester en contact avec ce qu'il meut, avec son mobile. Donc en gros, si je déplace cette montre, il faut que ma main soit en permanence en contact avec la montre. Et la discussion naît, en fait, du commentaire d'Averroès, le grand commentaire d'Averroès à la physique d'Aristote. Dans ce grand commentaire, Averroès, il n'est pas le premier du tout à le faire, mais il s'appuie sur une tradition qui n'est connue des latins que par son intermédiaire. Donc à l'origine, c'est Philopon qui avait posé ce problème. Qu'en est-il de l'aimant ? C'est-à-dire, la question que pose Averroès, c'est Aristote dit que le moteur doit rester en permanence durant tout le mouvement en contact avec ce qu'il meut, mais évidemment, l'exemple de l'aimant semble indiquer le contraire. À savoir, semble indiquer qu'en tout cas, il existe des phénomènes où ce n'est pas le cas, puisque de fait, l'aimant se trouve à une certaine distance du fer et le morceau de fer se déplace vers l'aimant. Donc, comment réintégrer ce phénomène qui est une apparente attraction à distance dans le cadre aristotélicien ? C'est ce à quoi vont essayer de s'employer tous les commentateurs médiévaux qui, pour la plupart, suivront les grandes lignes d'Averroès tout en perfectionnant. Alors, l'explication d'Averroès, on peut la résumer ainsi. En gros, ce que fait Averroès, c'est qu'il distingue l'aimant de la vertu magnétique. Il y a l'aimant et puis il y a la vertu magnétique. Et en fait, l'aimant fait parvenir, alors ce sont des modalités qu'Averroès, sur lesquelles Averroès n'est pas très précis, la vertu magnétique auprès du fer. Et donc, la vertu magnétique touche le morceau de fer. Et donc, il y a bien contact entre le moteur, qui est la vertu magnétique, et le morceau de fer, qui est le mobile. Donc voilà, Aristote est sauvé. Donc c'est le cadre général de cette explication, et la doctrine se précise, je plante un peu le décor avant d'aborder le cœur de la question qui nous intéresse, se précise vers le milieu du XIVe siècle, chez des auteurs comme Albert de Saxe et Jean Buridan, qui sont les grands auteurs de ce qu'on appelait la nouvelle physique du XIVe siècle, et qui emprunte une doctrine à l'optique et l'applique à la question du magnétisme. Alors, la doctrine de l'optique, c'est la doctrine dite de la multiplication des spéquies, pour expliquer la perception. Alors, vous voyez, ici, il y a une pomme. La pomme émet des simulacres d'elle-même dans toutes les directions. Alors, il faut imaginer qu'il y en a partout. Hein. En fait, il faudrait représenter des pommes dans toutes les directions, tout autour, hein, de façon orbiculaire. Et le simulacre appelé spéquies, hein, le simulacre spéquies de la pomme qui atteindra de manière orthogonale la pupille de mon œil, eh bien, c'est ce simulacre qui me permettra de percevoir la pomme. Donc cette doctrine qui a diverses sources, mais qui se met surtout en place de façon très claire chez Roger Bacon au XIIIe siècle, est donc utilisée par Buridan pour expliquer, pour perfectionner l'explication de l'attraction magnétique. Alors ce n'est pas un hasard, au XIVe siècle, la doctrine de la multiplication des spéquies envahit tous les champs possibles, hein, de la cognition jusqu'au phénomène physique. Donc l'explication est la suivante, et voilà, au fond, nous dit Buridan, l'aimant, alors, je suis désolé, l'aimant que j'ai trouvé est un peu moderne, hein, mais vous comprenez, c'est pour illustrer, l'aimant, vous imaginez à l'époque, c'est un morceau de magnétite, hein, c'est une petite pierre. Donc l'aimant envoie donc des spéquies, voilà, progressivement vers le morceau de fer. Une fois que le morceau de fer a donc reçu la spéquies de dernière spéquies de vertu magnétique, eh bien, voilà, comme vous voyez, superbe animation, le fer rejoint l'aimant. Alors, pour la spéquies, c'était en fait la solution optimale pour parfaire le modèle d'Averroès, puisque le modèle indiqué par Averroès, hein, c'est que à la fois la spéquies est en soi immatériel, donc ce n'est pas un corpuscule, parce que sinon on tomberait dans une doctrine corpusculaire ou atomiste, donc on sortirait de l'aristotélisme. Mais en même temps, l'aspect quies tire une forme de matérialité, de corporéité, de l'air intermédiaire dans lequel elle se multiplie. Donc c'est pas qu'en elle-même l'aspect quies soit matériel, mais c'est qu'elle tire sa matérialité de l'air. Donc grâce à ça, ce n'est pas ce qui va toucher le morceau de fer, ne sera pas purement spirituel, parce que sinon on retomberait vers une forme d'action, ce ne serait pas vraiment un contact dans les termes aristotéliciens du terme. Donc c'est parfait, l'aspect quies a tous les avantages pour parfaire la doctrine d'Averroès. Donc voilà où nous en sommes, et cette solution donc idéale, donc je remets ici les deux avantages, se déploie, nous l'avons vu, dans un contexte exclusivement universitaire, celui de la faculté des arts, des commentaires de la physique d'Aristote, qui est effectivement une œuvre inscrite au programme de la faculté des arts. Et les discussions évoluent, d'ailleurs, sont très subtiles, variées, mais dans ce cadre-là. Et la plupart des auteurs, au fond, suivent bon an mal an les grandes directions données par Averroès, avec évidemment des variantes dont je parlerai éventuellement. Alors, vous voyez déjà, en fait, la discussion sur l'aimant, c'est médiéval, l'essentiel, c'est ça. Or, si vous regardez les histoires générales des sciences, qui sont téléologiques, c'est-à-dire qui sont inspirées par les apports de la science moderne, un seul nom émergera, celui de Pierre de Maricourt. et son épistolat des Magnétés, sa lettre sur l'aimant de 1669. Œuvre remarquable, mais tout à fait singulière. Hein. Alors, on ne sait pas très bien quelle est la formation de Pierre de Maricourt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette œuvre n'est pas une œuvre universitaire. Hein. Lorsque Pierre de Maricourt l'a écrite, il se trouvait à Lucera, en Italie, dans le siège d'une ville. C'est sans doute ce qu'on appelle un ingénieur, enfin, on l'a connu, un ingénieur militaire. Et c'est une œuvre qui est purement expérimentale. Donc c'est une œuvre extrêmement rare. Hein. Il est rare que, au Moyen-Âge, on ait un tel recours à l'expérimentation au sens moderne du mot, c'est-à-dire véritablement des dispositifs expérimentaux pour essayer d'étudier la polarité de l'aimant, la polarité de l'aiguille. Et c'est ça qui a fasciné les historiens modernes, parce qu'ils ont dit « Ah, enfin, il y a un auteur qu'on peut sauver de cette scolastique stérile du Moyen-Âge, c'est Pierre de Maricourt ». Voilà un peu le raisonnement qu'on lit dans les ouvrages « Les histoires générales des sciences ». Alors, effectivement, Pierre de Maricourt est crédité d'une découverte importante, à savoir que l'aiguille magnétisée pointe non pas vers l'étoile polaire comme on avait pu l'écrire jusqu'à lui, mais pointe vers le pôle nord céleste. Il ne dit pas encore le pôle terrestre. Pour cela, il faudra attendre William Gilbert, 1600. Mais c'est déjà, évidemment, une meilleure approximation si on veut raisonner en termes téléologiques d'apport à l'histoire des sciences. Bien. Alors, les questions que pose Pierre de Maricourt sont extrêmement différentes de celles que l'on trouve dans ses commentaires de la physique. Et du coup, lorsqu'on lit l'histoire générale des sciences, ça, on va voir que ça a des incidences sur la manière d'évaluer évidemment l'apport de la science médiévale à la science de la Renaissance, science moderne. Les historiens des sciences répondraient à la question que j'ai posée dans l'introduction, disant, ben voilà, l'apport de la science médiévale à la science moderne, c'est Pierre de Maricourt, qui effectivement est cité par William Gilbert. Point. Le problème, c'est que ce n'est pas ça. Quand on étudie un peu la science scolastique, on aperçoit des modèles de rationalité, des modèles explicatifs qui, eux-mêmes, ont été, dans leur modalité et même dans leur contenu, extrêmement influents, même en plein cœur de la science de la Renaissance, voire des débuts de la science moderne. C'est ce que je voudrais essayer de montrer. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, donc il faut... Déjà, pour bien prendre poser la question, il faut éviter de tomber dans le travers que dénonçait Edward Grant, donc c'est un propos qu'on lui attribue, c'est-à-dire qu'il faut éviter ce qu'on appelle le pox of precursoritis, hein, la variole de la précursoritis, hein, la volonté de vouloir toujours trouver des précurseurs à la science moderne. C'est pas comme ça, c'est pas en ces termes qu'il faut raisonner. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir relativiste, ça ne veut pas dire qu'il faut penser comme des... quelques historiens postmodernes que le progrès en science n'existe pas. Si, le progrès en science existe, simplement, il faut savoir évaluer, faut comprendre la science dans son contexte propre pour essayer d'en comprendre la richesse et l'intérêt. Alors, donc voilà un peu l'héritage médiéval, vous voyez, donc l'héritage dont je vais parler, surtout cet héritage universitaire, et on voit au Quattrocento, au XVe siècle italien, émerger un certain nombre de doctrines indéniablement nouvelles, indéniablement des redécouvertes de doctrines anciennes qui sont de nouveau utilisées de façon fertile et qui donc sur lesquelles se focalise généralement l'attention des historiens. Alors j'en ai identifié trois thèses mises en circulation, on va les voir, l'explication atomiste, les explications platoniciennes et néoplatoniciennes et l'explication d'Alexandre d'Aphrodise. Bon. Essayer de comprendre dans quelle manière ces thèses émergent nous permet de comprendre aussi la part que prend l'héritage médiéval dans ces nouveaux contours de cette philosophie naturelle. Je commence par la première thèse, la thèse atomiste. La thèse atomiste est souvent, les histoires générales montrent parle de la redécouverte du De Natura Rerum de Lucrèce par Poggio Bracciolini en 1417, dans un manuscrit conservé à Murbach. Et c'est souvent cela que l'on met en exergue. Donc c'est le poème épicurien du grand auteur latin que tout le monde connaît, a donné lieu effectivement à plusieurs éditions, hein, 1473, 1486, 1595, et donc... On dit, voilà, la redécouverte de l'atomisme par naissance. Bon, il serait néanmoins erroné de penser que cette redécouverte constitue la cause essentielle et unique de la diffusion de l'épicurisme ou de l'atomisme au Quattrocento, comme l'a montré récemment Aurélien Robert, le grand spécialiste de l'atomisme médiéval. Les manuscrits témoignent d'une circulation du De Natura Rerum dès le Moyen-Âge, en fait. Dès le Moyen-Âge. D'autre part, Poggio Bracciolini, aussi, celui qu'on appelle le Poge, ne paraît guère avoir contribué lui-même à la diffusion de ce poème, alors que d'autres acteurs sont intervenus dans la propagation de ces idées épicuriennes en Italie. Et Aurélien Robert a montré surtout que le Moyen-Âge avait préparé depuis longtemps le terrain à l'accueil de l'épicurisme. Et il montre aussi Aurélien Robert que, par ailleurs, il existe des doctrines atomistes qui existent parallèlement à cette question du Natura Rerum. Il y a des réflexions atomistes assez poussées au Moyen-Âge, au XIVe siècle, notamment dans les milieux théologiques. Bon. Donc déjà, on voit que l'histoire qui fonde cette redécouverte du texte et cette quête philologique qui a son importance n'explique pas tout. Quoi qu'il en soit, que peut-on dire de la redécouverte du Natura Rerum? Bon, il est évident que Lucrèce, dans le Natura Rerum, donnait une explication bien connue de l'attraction magnétique, une doctrine fondée à la fois sur l'émanation de particules à partir de l'aimant et couplée avec une théorie du vide. Alors, je résume brièvement cette théorie bien connue, peut-être que vous la connaissez tous très bien. Depuis l'aimant, nous dit Lucrèce, émane un flux de germes qui disperse l'air intermédiaire. Et de cette façon, les primordia ferri, les principes du fer, se trouvent précipités dans le vide et ils entraînent l'anneau de fer jusqu'à ce que cet anneau entre en contact avec l'aimant. Voilà. Donc vous voyez, les particules qui cassent en quelque sorte l'air, qui créent un vide, donc l'anneau s'engouffre dedans pour aller rejoindre le... Bon. L'anneau adhère à l'aimant alors à partir de liens invisibles et un autre phénomène concourt à ce processus, l'air qui se trouve derrière l'anneau pousse ce dernier en comblant le vide. Donc, il y a un phénomène à la fois de... Double phénomène, à la fois un rôle joué par l'air et en même temps un vide. Alors, cet air a pénétré dans les pores du fer et c'est de cette façon qu'il meut le fer. Hein, c'est voilà, l'air qui se trouve derrière. Et de surcroît, ajoute Lucrèce, la substance du fer, comme tout corps, contient de l'air. Tout ça se combine, vous voyez. Donc, une émanation de particules, un jeu à partir d'un appel du vide. Et voilà Lucrèce explique le processus. En pensant que Lucrèce, évidemment, comme épicurien, admet l'existence du vide dans le monde, ce qui n'est absolument pas le cas d'Aristote, bien entendu. Voilà pour la première thèse. Je résume brièvement. Deuxième famille de thèses, les thèses platoniciennes et néo-platoniciennes. La thèse platonicienne refait surface est l'explication que donne Platon lui-même dans le Timée. Alors là, effectivement, indéniablement, le Moyen-Âge n'avait pas accès à cette partie du Timée, puisque, comme nous le savons, le Timée n'était connu au Moyen-Âge que par fragments, un fragment, dans la traduction de Chalcidius au IVe siècle. Et c'est Marsile Ficin, le grand philosophe de la Renaissance florentine, qui offre pour la première fois la traduction intégrale du Timée de Platon. Or, précisément, dans un passage qui n'était pas connu au Moyen-Âge, Platon avait proposé une explication de l'attraction magnétique par l'éviction du vide, lui aussi, mais évidemment pas exactement dans les mêmes termes que Lucrèce. Alors, assez différente de la thèse platonicienne, proprement dite, il y a la thèse néo-platonicienne, ou je dirais néo-platonisante, que met en avant Marsile Ficin lui-même. Parce que Marsile Ficin non seulement a traduit Platon et les néo-platoniciens, mais aussi l'auteur d'une œuvre importante, et en particulier le De Vita Coelitus Comparanda, dans le troisième livre du De Vita, ce qui s'appelle donc le De Vita Coelitus Comparanda. Ficin explique, en s'appuyant sur un autre néoplatonicien qui s'appelle Proclus, que le fer et l'aimant appartiennent tous les deux à la même chaîne d'être qui remonte à la constellation de l'ours, constellation septentrionale, nordique, d'où l'orientation de l'aimant vers le nord. C'est, nous dit Ficin, la raison pour laquelle... Quand il était jeune, lui, Ficin, il avait fabriqué un talisman. Alors, on sait que Ficin est fasciné par les talismans astrologiques. Hein. Ficin avait fabriqué un talisman en gravant dans l'aimant la figure de la constellation de l'ours. Alors, je n'ai pas bien compris, d'ailleurs, si c'est la grande ours ou la petite ours, en l'occurrence. Quand la Lune était astrologiquement favorisée. Et on sait, en effet, donc, que Ficin a fait usage à théoriser déjà les talismans. Donc, il avait couplé l'aimant à cette forme de magie astrale, puisque l'explication qu'il donnait était, au fond, une explication astrale. Voilà pour la deuxième thèse. Troisième thèse, la thèse que les auteurs de la Renaissance attribuent au grand commentateur d'Aristote, Alexandre d'Aphrodise. Alexandre d'Aphrodise avait déjà joué un rôle au Moyen-Âge dans l'attraction à distance, c'est ce que j'avais essayé de montrer, la traduction des météorologiques d'Alexandre d'Aphrodise vers 1260 par Guillaume de Mourbeck a joué un rôle dans cette réflexion autour de l'attraction à distance, mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une traduction, d'une traduction que fait Giorgio Valla des questions naturelles, ou ce qu'on appelle les problemata d'Alexandre d'Aphrodise, texte qui n'était pas tel quel connu au Moyen-Âge. Et ces questions sont éditées pour la première fois à Venise en 1488 et ils mettent en circulation une nouvelle explication. Cette nouvelle explication, c'est, pour le dire en quelques mots, l'explication par la cause finale. Donc nous, Alexandre d'Aphrodise et ceux qui l'interprètent, je donne rapidement cette thèse, disent que de même que le désirable attire la créature vivante sans faire du milieu intermédiaire quelque chose de désirable. Il est vrai que si un homme aime une femme, l'air qu'il y a entre l'homme et la femme ne va pas se mettre à tomber amoureux de la femme. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Donc il y a bien une forme d'action, une forme d'action distante, disons. Donc ce n'est pas le milieu intermédiaire, ce n'est pas lui, ce n'est pas par son intermédiaire que se réalise cette attraction. Et, ajoute Denis, et il en est de même pour les êtres inanimés. Les êtres inanimés, eux aussi, ont, pour ainsi dire, une forme de désir. Voilà l'explication donnée par Alexandre d'Aphrodise. Bon, alors rassurez-vous, je ne perds pas de vue le sujet, je plante là le décor, mais je vais arriver au cœur de notre problème. Ces thèses sont mises en circulation, mais évidemment se pose la question de leur accueil. Il me semble qu'il est important de faire trois remarques. Premièrement, une remarque sur la thèse médiévale. Que devient la thèse médiévale, cette thèse donc inspirée d'Averroès et perfectionnée par la doctrine de la multiplication des spéciès, que devient cette thèse à la Renaissance? Alors, pour le savoir, on va prendre des échantillons, quelques auteurs. Certains, on va voir un peu leur profil. Alors, je prends le premier, Agostino Niffo. Agostino Niffo, qui est un néo-aristotélicien, opposition originale, parce que là aussi, on a souvent dit que la Renaissance est caractérisée par la redécouverte du platonisme avec Ficin, et que le platonisme, on sait depuis les travaux de Schmitt que, en fait, c'est tout à fait incomplet, que l'aristotélisme connaît aussi un regain, et les néo-aristotéliciens ont une importance considérable également à la Renaissance, qu'on pense par exemple à Pomponazzi. Il y a des auteurs clés qui ne sont pas du tout des néo-platoniciens. Bon. Agostino Niffo, dans son commentaire sur la physique, qui est un personnage singulier, original. Niffo, c'est pas, le maître qui, des poussifs, appliquerait, répéterait ce qui était dit auparavant, pas du tout. C'est un acteur majeur de cette réflexion nouvelle. Niffo cite plusieurs variantes de l'explication scolastique de l'attraction magnétique et se rallie pour finir à celle que défendent ce qu'il appelle les juniores, c'est-à-dire les plus jeunes, à savoir celle de Walter Burley, dont nous parlerons tout à l'heure. Donc, Walter Burley avait réhabilité la thèse Averroès, avait montré que cette thèse avait développé cette thèse. On aura l'occasion d'y revenir. Mais il déclare que ses conclusions sont seulement probables et il dit que si une autre idée lui vient à l'esprit à l'avenir, il pourra changer d'avis. Voilà, très libre, une conclusion très libre en fond de l'interprétation qu'il peut donner de la magnétisme. Autre exemple, alors vous me direz, je reste toujours dans une ambiance aristotélicienne. Les jésuites de Coimbra. Les jésuites de Coimbra sont des grands représentants de la scolastique tardive. Ils commentent l'œuvre d'Aristote entre 1543 et 1592. Et leurs commentaires ne sont pas du tout négligeables. C'est pas parce que ce sont des auteurs de la tradition scolastique qu'il faut considérer que ce sont des ringards. Pas du tout. Descartes lui-même a dit que les jésuites de Coimbra ont fait partie de ces lectures importantes. Et ces jésuites de Coimbra reprennent pour l'essentiel la thèse médiévale. Ils citent des auteurs comme Thomas d'Aquin, Albert le Grand, mais ils insistent davantage, et c'est là qu'on voit les inflexions, qu'on ne le faisait, me semble-t-il, avant eux, sur des notions déjà de saveur un peu néoplatonisantes, sympathie, accord au culte de nature, qui sont de nature néoplatonisante. Donc on voit comment cet héritage médiéval peut être continué, compris au XVIe siècle, par des auteurs qui se recommandent de cette tradition, mais en même temps, ces auteurs se laissent pénétrer par ces nouveaux courants. Donc, ce n'est pas, il ne faut pas penser ça en termes d'opposition, mais en termes d'hybridation, en fait. Et dans une autre catégorie d'exemples, on peut mentionner le cas tout à fait intéressant de Leonardo Garzoni. Leonardo Garzoni est un jésuite italien, et son œuvre, une œuvre très importante, les Trattati sulla Calamita, sont une œuvre qui n'est pas une œuvre scolastique, mais un double traité qui accorde une grande place à l'expérimentation. Garzoni présente une explication très originale du magnétisme. Cette explication intègre d'une certaine manière l'explication médiévale et la parachève, et parachève la doctrine de la multiplication des species, mais de façon très originale. C'est-à-dire que pour lui, pour Garzoni, sa théorie, je ne vais pas la résumer parce qu'elle est complexe, mais disons qu'il distingue deux choses. Il y a ce qu'il appelle la qualité à deux faces, qualità delle due facce, d'un côté, et d'autre côté, la qualité à une face, qualità di una faccia. Le fer possède la qualità di una faccia, l'aimant, la qualità delle due facce. On voit bien que c'est l'idée de la polarité qu'il y a derrière, et à partir de ces concepts, il récupère toute la doctrine médiévale des Spéciès, à mon sens, il la reformule selon cette doctrine qui lui est vraiment propre. Il n'y a pas d'équivalent. Donc, ces quelques exemples témoignent, me semble-t-il, à la fois de l'utilisation de ces doctrines médiévales et aussi de leur transformation légère ou profonde, selon les cas, de l'explication scolastique. Donc, il faudrait y faire attention. Ce n'est pas une nouveauté, c'est qu'on pense qu'il y a, au fond, il y aurait une survivance des doctrines scolastiques, puis vouée à terme être totalement remplacée. La chose est assez est plus subtile. Hein. On voit que qu'il y a une permanence et des phénomènes d'hybridation. C'est-à-dire que cet héritage médiéval n'est pas considéré comme un corps étranger à ce mouvement de reformulation des doctrines autour du magnétisme. Deuxième point que je voudrais préciser, c'est que les nouvelles thèses philosophiques qui sont mises en circulation, hein, que ce soit l'atomisme, les explications néoplatoniciennes ou l'explication d'Alexandre d'Aphrodise, ces nouvelles thèses philosophiques sont connues d'auteurs au profil très différent. Nous avons vu ici, et nous allons l'occasion d'en parler, que, au fond, même les auteurs qui s'inscrivent dans la scolastique et qui continuent de soutenir la thèse médiévale sont au courant de cette nouvelle thèse. Et c'est sciemment, pour de bonnes raisons, qu'ils les rejettent. Alors, on a l'occasion d'en parler. En troisième lieu, et ça, on aura l'occasion de le voir plus en détail, c'est ce à quoi je m'employais, ces thèses nouvelles, ça renvoie un peu à ce que je voulais dire, ces thèses nouvelles sont connues, ça ne veut pas pour autant dire qu'elles sont acceptées. Ce n'est pas parce qu'on connaît la thèse atomiste et qu'on en parle que forcément c'est celle que l'on retient. On peut lui préférer, y compris en plein au 15e ou 16e siècle, la thèse médiévale, avec encore une fois de bonnes raisons. Alors, je vais d'abord donc parler de l'accueil réservé à chacune de ces thèses chez quelques témoins, à la fois scolastiques et non scolastiques, même si les catégories sont beaucoup trop tranchées. Prenons la thèse atomiste d'abord. Dans le commentaire de la physique d'Aristote, les Jésuites de Coimbra, dont j'ai parlé, restent fidèles donc à l'explication médiévale et ils rejettent l'explication atomiste qu'ils connaissent. Donc, hein, c'est pas qu'ils restent aveugles aux nouveautés doctrinales, c'est que sciemment, ils la jugent non convenable. Il précise, il dit non, c'est une qualité qui a été mise par l'aimant et non des atomes. Donc clairement, un retour conscient, précis, ce qui est normal, après tout, ce sont des aristotéliciens, mais voilà, réactivation très précise de la thèse aristotélicienne. Leonardo Garzoni, lui aussi, évoque la thèse atomiste et il la rejette. Cette thèse atomiste, il la rejette pour plusieurs raisons. Alors, il explique que Lucrèce et ceux qui le suivent explique que de l'aimant, corps plus subtil que le fer, émanent des atomes, lesquels, en raison de leur subtilité, pénètrent le fer. Les atomes du fer s'en trouvent altérés et sont mus, et donc ces atomes sortent du fer, pénètrent dans la pierre d'aimant, où ils s'arrêtent en raison de la similitude, entraînant le fer à adhérer à l'aimant. Donc il reformule un peu la doctrine de Lucrèce, mais enfin, il garde l'essentiel, qui est simplement l'émission de corpuscules, et il la rejette pour trois raisons. Premièrement, si l'aimant agissait en émettant ses atomes, alors il y a à la fois les atomes du fer et de l'aimant qui sont en jeu, à force d'émettre des atomes, eh bien, l'aimant finirait par se consumer. Premier argument. Deuxièmement, il n'est pas concevable que les atomes pénètrent une si grande distance, à une si grande distance, aussi rapidement, des corps aussi denses que les pierres. Dans la chaîne d'anneaux en contact avec un aimant que décrit Lucrèce, on peut imaginer, certes, que les atomes de l'aimant adhèrent au premier anneau, mais on voit mal comment ils pourraient pénétrer les anneaux suivants. Bon, deuxième argument. Troisièmement, dit Garzoni, on serait conduit, si on admettait la thèse atomiste, à soutenir que le fer attire le fer, puisque la question de la similitude se pose, que l'argent attire l'argent, qu'une branche attire une branche, en raison de leur similitude. Donc là encore, il renvoie Lucrèce au problème, au paradoxe de la similitude. Dernier auteur que je cite, William Gilbert, le grand William Gilbert, celui dont le traité constitue vraiment le pivot, l'acte de naissance de la science magnétique moderne. Gilbert mentionne aussi l'explication de Lucrèce, mais il ne la suit pas. Donc la science moderne ne part pas du tout de cette redécouverte de Lucrèce, en l'occurrence. Prenons maintenant l'accueil de la thèse ficinienne. Garzoni est très sévère, là, il considère que Ficin exprime le point de vue d'un platonicien spiritualisant d'une certaine manière toute chose. Et come platonico in certo modo spiritualizzandi ogni cosa. Donc, il ne retient pas cette thèse. Ce n'est pas la thèse qu'il admet. Quant à William Gilbert, il est très très dur avec Ficin, très très dur. Il dit que, alors qu'il est assez élogieux sur Thomas d'Aquin, il dit qu'il n'est peut-être pas allé assez loin, mais il en parle avec. Il est très élogieux sur Pierre de Méricourt aussi, mais alors, Ficin, vraiment. Gilbert ne l'aime pas du tout. Il déclare que Marcel Ficin rumine les vieilles opinions. Marcillus Ficinus veteres opiniones ruminat. Bon, voilà. Troisième thèse, la thèse d'Alexandre d'Aphrodise. Elle est diversement interprétée selon les auteurs. Les jésuites de Coimbra la rejettent simplement, renvoyant à la propre explication. Quant à Leonardo Garzoni, il la réfute en expliquant qu'elle est fondée sur l'idée fausse, selon laquelle l'aimant serait une terre convertie en pierre et que de cette même terre serait tiré le fer. Cette idée est fausse, dit Garzoni, puisque dans les mines d'aimant, on ne trouve pas de fer. Non. Il y a aussi une autre raison pour rejeter cette fer, dit Garzoni. Quand l'aimant touche la pointe d'une aiguille, la pointe opposée abhorre, déteste cette partie de l'aimant. Bon, c'est le phénomène de polarité. Donc l'idée selon laquelle le fer serait tiré à l'aimant comme le désirant par le désirable ne tient pas, puisqu'on a aussi l'effet inverse. Cependant, parmi les thèses nouvellement mises en circulation pour expliquer le magnétisme, il y en a une qui a une importance particulière, c'est celle sur laquelle je vais insister, c'est la thèse vitaliste. La thèse vitaliste. Et alors, cette thèse, elle me semble intéressante parce que justement, elle complexifie énormément les relations entre sciences médiévales, sciences de la Renaissance et sciences modernes. Elle brouille un petit peu tous les schémas que l'on peut avoir. De quoi s'agit-il ? William Gilbert publie en 1600 son célèbre De Magnete, et ce traité est loué par les historiens des sciences, à juste titre, pour sa remarquable précision expérimentale et pour la vérité scientifique que réussit à établir Gilbert, à savoir que l'aiguille magnétique se tourne vers le nord terrestre et non plus vers le nord céleste, comme l'avait démontré Pierre de Maricourt. Cependant, et c'est là le paradoxe, cette œuvre remarquable du point de vue scientifique, c'est une œuvre qu'on considère comme une œuvre de la science moderne, illustrant, on la cite au même titre que Galilée, que les œuvres de Descartes, hein, Gilbert, c'est ce niveau-là, c'est vraiment l'acte de naissance de la science moderne, hein, avec d'autres œuvres. Cependant, le problème, c'est que cette œuvre repose sur quelque chose qui pourrait surprendre une histoire des sciences un peu trop étroitement progressiste ou linéaire, c'est qu'en fait Gilbert, c'est bien connu, fait reposer toute son explication sur une thèse animiste, vitaliste. Pour lui, l'aimant est une substance animée. Ce n'est pas sans raison, dit-il, je lis le passage, que Thalès, ainsi que le rapporte Aristote dans le livre de l'âme, a soutenu que l'aimant était une pierre animée, lui qui est une partie et un rejeton choisi de sa mère animée la terre. En fait, l'aimant n'est qu'un cas particulier, mais tout à fait significatif, d'une animation générale du cosmos. L'univers tout entier est animé, il s'inspire évidemment là de doctrines très en vogue à la Renaissance, doctrine vitaliste est très en vogue, savoir une doctrine néoplatonisante, vitaliste, avec peut-être aussi des influences de Paracelse. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à connaître les vraies sources de Gilbert, c'est un vrai problème. Et donc, il renvoie à ce passage bien connu du De Anima d'Aristote. Aristote disait simplement « Il semble que Thalès, lui aussi, d'après ce qu'on rapporte, considérait l'âme comme un principe moteur. L'aimant, selon lui, possède une âme puisqu'il met le fer en mouvement. » Voilà ce que dit Aristote. Mais évidemment, Aristote ne retient pas cette explication. Aristote, évidemment, chez Aristote, les règnes sont bien divisés. L'âme est réservée, pour Aristote, aux végétaux, aux animaux et aux êtres humains. Bon. Alors, William Gilbert est donc à la fois un acteur majeur de la science moderne, par son insistance sur l'expérimentation au sens moderne du mot, dispositifs expérimentaux, mais c'est aussi l'expression la plus saisissante d'un des courants majeurs de la philosophie de la Renaissance, le vitalisme. La vision du monde qu'il promeut superpose les deux tendances, si on peut ainsi résumer de façon raccourcie un peu ces deux influences. Alors, comme l'a écrit fort justement Gad Freudenthal, Gilbert est l'un des savants qui, plusieurs années avant Galilée, présente le monde comme un espace isotrope, c'est-à-dire un espace qui a les mêmes caractéristiques physiques, quelle que soit la direction. Il n'y a plus qu'un seul monde, il n'y a plus le monde supralunaire et le monde sublunaire, il n'y a qu'un seul monde. Mais d'un autre côté, cette unification pré-galiléenne du cosmos se fait dans des fondements animistes, néoplatoniciens. Et effectivement, avant même Gilbert, l'explication vitaliste avait déjà été employée par plusieurs auteurs. On peut citer Jérôme Cardan, qui, dans son De subtilitate de 1550, expliquait que tous les corps mixtes, tous les mélanges, vivent ou ont vécu, puisqu'ils connaissent un processus de nutrition, lequel ne s'explique que par la présence d'une âme. Pourtant, il est nécessaire que toutes les choses mixtes vivent ou qu'elles aient vécu. Nous avons dit que les matières métalliques, les métaux et les pierres vivent. Il y a aussi dans les pierres la mort, et donc la vie aussi. En effet, chez moi, trop souvent, la pierre d'Hercule, c'est-à-dire l'aimant, a péri en peu de temps. Alors qu'en effet, elle attirait vivement le fer, après un certain temps, elle a cessé d'attirer. Or, qu'est-ce que la vie, si ce n'est l'opération de l'âme ? Pour cela donc, je ne croirais pas Simplicius, qui dit que comme le fer est attiré par la pierre d'Hercule, donc par l'aimant, ainsi, il faut estimer que l'or est attiré par l'arête de Grondin rouge. En effet, une telle arête ne vit pas. Donc, vous voyez, l'arête de poisson est moins vivante que la pierre. C'est pourquoi je me fie à cette démonstration à quel point que, bien que je n'en ai pas fait l'expérience, j'ose dire toutefois qu'il est impossible que l'arête de Grondin attire l'or de la même manière que la pierre d'Hercule attire le fer. Donc, les métaux et les pierres vivent, donc et également meurent. C'est la raison pour laquelle on trouve des aimants qui ont cessé d'attirer. Car dans Critique, donc ce raisonnement de Simplicius, puisqu'il explique l'attraction du fer par l'aimant, par la vie. On sait que Cardan était lui-même influencé doublement par l'aristotélisme scolastique d'un côté et par le néoplatonisme ficinien de l'autre. Et il voit le cosmos régi par une âme du monde, thème éminemment platonicien, bien sûr, dont participent les multiples âmes individuelles, bien au-delà des seuls règnes végétaux et animaux. Les minéraux sont donc eux aussi animés et vivants. Et le fait que l'aimant puisse perdre sa capacité d'attirer le fer est pour lui la preuve, a contrario, qu'il était vivant puisqu'il est mort. Bon. Pour éclairer la fonction épistémologique de cette explication animiste et vitaliste de l'attraction magnétique, il faut justement, c'est là que je reviens à un de mes thèmes, remonter au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, cette hypothèse de l'animation apparaît. Alors, pas très souvent, mais elle apparaît. Mais justement, elle n'apparaît que comme un argument par l'absurde. C'est le cas chez Guillaume d'Ockham. Guillaume d'Ockham a donné sur le magnétisme une contribution extrêmement originale, puisqu'il a appliqué le principe d'économie, propre à ce qu'on appelle l'occamisme ou le nominalisme, à savoir que pour lui, Averroès a tort de postuler l'existence d'une vertu magnétique. Ça redouble la réalité. La seule chose qu'il y a, il y a l'aimant d'un côté, il y a le morceau de fer de l'autre. Pour Ockham, est moteur ou est cause de quelque chose, ce en l'absence de quoi le phénomène ne se produit pas. S'il n'y a pas d'aimant, le fer ne se déplace pas. Donc, la cause du mouvement de l'aimant, la cause du mouvement du fer, c'est l'aimant. Point final. On n'a pas de raison de postuler quelque chose. On ne peut même pas avoir la présence sensible. La vertu magnétique, ça redouble l'air. Rasoir d'Occam, là. On élimine cette réalité qui ne sert à rien et on s'en tient à la confrontation terrible et distante de l'aimant et du fer. Et c'est comme ça. Ça veut dire qu'implicitement, mais Guillaume d'Occam semble s'entendre qu'il y a une action à distance, proprement parlé. Alors cette position est une position radicale, elle est unique, hein, même chez Don Scott, qui envisage des formes d'action à distance, on n'a pas cette vision aussi surprenante, hein, une causalité vraiment qui semble admettre l'action à distance. Et il se trouve que Guillaume d'Occam, lors de sa démonstration, formule contre Averroès l'objection suivante. Le fer est mu par l'aimant dans différentes directions. Selon que je déplace l'aimant, évidemment, le fer va aller soit vers le haut, soit vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite. Or, les êtres inanimés ne sont mus naturellement que dans une seule direction. Un corps lourd va vers le bas, un corps léger va vers le haut. C'est les deux seules directions qui existent. Donc, aucune qualité naturelle causée dans le fer ne peut être responsable des mouvements du fer dans plusieurs directions. De surcroît, ajoute-t-il, même dans les êtres animés, même chez les animaux, ce n'est pas la vertu motrice qui serait en eux qui les fait aller dans différentes directions, mais leurs appétits, leurs cognitions qui font varier la direction de l'être animé. Le chat n'a pas une vertu motrice pluridirectionnelle. C'est appétits, hein, pour les hommes, d'actes de cognition qui font qu'il va se déplacer. Alors, c'est amusant parce que vous voyez, retenez bien qu'ici, il n'est pas question d'animation de l'aimant, mais du fer. C'est le fer qui est en jeu. C'est question de savoir est-ce que le fer est animé. Absurde. Donc, évidemment, bon, voilà. Or, si on suit Averroès, eh bien, c'est curieux. Ce fer va dans différentes directions. Il n'y a aucune vertu naturelle qui permet d'aller dans une direction. Donc, l'hypothèse d'une vertu, d'une qualité conférée par l'aimant au fer, cette hypothèse averroïste doit être éliminée. Vous voyez, les raisonnements d'Occam. Alors, il faut savoir que Walter Burley répond en 1300. Dans les 1320 à Guillaume d'Occam, et lui veut rétablir la thèse d'Averroès contre Occam, et il attaque cet argument, et notamment cet argument-là. En gros, ce que va démontrer Burley, c'est on peut suivre Averroès sans arriver à cette idée absurde formulée par Occam, c'est-à-dire l'idée absurde selon laquelle on serait obligé, dans ce cas, d'attribuer une forme d'animation au fer, puisque la vertu naturelle... Alors, la position de Burley est assez simple. Il dit que dans l'attraction magnétique, le seul mouvement, alors pour Aristote, le mouvement, c'est tout changement, toute modification, hein, localement, quantitativement, qualitativement. Bon. Là, le seul vrai mouvement, c'est le mouvement essentiel, le mouvement percé, c'est le mouvement de perfectionnement de la vertu du fer, la vertu magnétique qui se trouve incomplète dans le fer et qui va se parfaire en allant près de l'aimant. C'est ça, la vertu. Le fait qu'il se déplace, ce n'est qu'accidentel. Ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est l'altération du fer par la vertu magnétique. C'est ça, le vrai mouvement. Le mouvement local, ce n'est qu'accidentel. Or, par conséquent, on n'est pas obligé de souscrire à toutes les conséquences par l'absurde envisagées par Occam. Il y a un mouvement essentiel, qui on pourrait m'expliquer, le mouvement perfectionnement de la vertu, et puis il y a ce mouvement local qui est une conséquence accidentelle, donc il n'y a pas besoin de s'interroger, de savoir pourquoi c'est dans une direction, donc c'est pas, on ne peut pas traiter ça comme si on raisonnait à partir d'un mouvement essentiel. Alors nous trouvons là devant un problème intéressant, parce que on voit bien là un clivage entre la théorie scolastique, dans laquelle l'idée que le fer ou même que l'aimant, selon Burlet, puisse être animé, relève de la totale absurdité, et le contexte de la Renaissance dans lequel cette hypothèse prend sens. C'est donc dans le contexte d'une philosophie naturelle modifiée par la crue du néoplatonisme que peut se comprendre l'émergence de cette thèse de l'animation du phénomène magnétique. De fait, dans le cadre péripatéticien, la thèse de l'animation de l'aimant était inutile du point de vue explicatif. C'est ce qu'on aperçoit donc chez les Jésuites de Coimbra. Donc là, on revient au XVIe siècle. Voilà au nom de quoi les Jésuites de Coimbra rejettent la thèse de l'animation. L'aimant, en effet, n'est pas puissant par une âme, puisqu'il ne croit pas et ne donne pas d'autres indices d'une fonction vitale. Et s'il était doté d'une âme, cela ne serait pas suffisant pour faire participer le fer à la vie et s'emparer de ce dernier. Chose intéressante. On avait vu que chez Occam, c'est le fer qui est animé, parce que pour que son explication absurde puisse fonctionner, si je puis dire, il fallait que ce soit le fer. Mais là, les Jésuites de Coimbra disent, voyons, supposons que ce soit l'aimant, qu'est-ce que ça résoudrait comme problème ? L'aimant serait animé, mais c'est le fer qui se déplace, c'est pas l'aimant. Donc si on pense qu'il y a une puissance mystérieuse qui ferait de l'aimant une pierre animée, ça ne résoudrait rien. Pourquoi ? Parce que les Jésuites de Coimbra résonnent dans un univers aristotélicien. En d'autres termes, l'intérêt épistémologique de conférer l'animation à l'aimant n'existe que dans un univers qui n'est pas aristotélicien. Ça ne sert à rien aux aristotéliciens. Même s'ils supposaient par l'absurde qu'on donnait la vie à un aimant, ça ne résoudrait pas le problème de l'action à distance. Cette explication ne sert véritablement à l'explication de la Renaissance qu'à partir du moment où un modèle platonicien admet des formes de liant entre les choses. Une espèce d'âme du monde, quelque chose qui lie les choses les unes avec les autres. Mais dans l'univers de la césure où on a d'un côté tout seul l'aimant, de côté tout le fer, ça ne sert à rien. Quand bien même l'aimant aurait une âme, qu'est-ce que ça explique rien du tout. Alors, chose intéressante, donc, il me semble que là, on a justement le clivage. Hein. C'est-à-dire que dans des univers comme, par exemple, l'univers de Ficin ou l'univers post-ficinien, il y a effectivement soit l'âme du monde, soit quelque chose d'un corps subtil qui fait le lien entre toutes les choses, qu'on appelle le spiritus. Il y a du liant entre les choses. Donc, le monde néoplatonien dans la Renaissance, c'est un monde de correspondance, où les choses agissent sur une autre. Chez Ficin, la corde de la cithare fait vibrer l'autre corde, la même corde que la cithare. Ce qui est vrai, d'ailleurs, qu'on en prend deux guitares quand même. Mais on explique ça parce qu'il y a une sorte de... Bon, c'est une image plotinienne, hein, d'harmonie entre les choses du monde. Rien de cela dans le modèle médiéval. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, chez Occam, c'était le morceau de fer qui était animé, pas l'aimant, parce que de toute façon, même pour construire son argument contra qu'il va détruire, ça ne servait à rien. Eh bien, là, au contraire, dans le monde de la Renaissance, on pouvait effectivement, ça avait un sens de donner une âme à un aimant. Alors, remarquons que Leonardo Garzoni aussi attaque la thèse de l'animation de l'aimant. Il mentionne Jérôme Cardan. On va voir, hein. Mais il écrit que la thèse de l'animation des pierres va à l'encontre de toutes les règles de la philosophie. Et quand il dit de toutes les règles de la philosophie, c'est que pour lui, la règle de la philosophie, c'est la philosophie aristotélicienne, la philosophie, la tradition scolastique. Hein, vraiment, c'est ça. Puisque les pierres sont dépourvues d'organes, dit-il, donc voilà, il n'y a pas d'organes dans les pierres. La même thèse rendrait compte, dit-il aussi, de l'attraction de l'aimant par l'aimant, en expliquant que le premier aimant trouve dans l'autre des morceaux de fer mélangés. Garzoni trouve cette opinion tellement absurde. Il parle de l'idée que l'aimant trouverait dans le fer, plutôt que le fer trouverait des morceaux de fer mélangés à l'aimant, tellement absurde qu'il n'entend même pas se fatiguer, hein, même pas se fatiguer à la réfuter. Hein. Ma questa opinione è in vero tanto assurda che non accade a fatigarsi a risponderle con altre ragioni o parole. Voilà, un revers de la main. Bon, donc la thèse qui consisterait à rendre compte du pouvoir attractif de l'aimant sur le fer par l'animation de l'aimant était donc, c'est l'idée, je le redis, à la fois une idée incompatible avec le cadre aristotélicien, mais aussi absolument d'aucune utilité dans le cadre péripatéticien. Alors, toute cette belle démonstration, pour revenir vraiment au cœur du sujet, pour arriver à quelques conclusions que je peux tirer. Ces quelques exemples montre comment la question de l'attraction magnétique révèle certains des traits de la transition de la science médiévale à la science dite de la Renaissance, puis à la science moderne. La recherche des textes anciens comme nouvelle source fait ressurgir, nous l'avons vu, des théories antiques. Ça, on ne va pas le nier. Ces théories antiques sont censées caractériser, dit-on souvent, le foisonnement intellectuel du Quattrocento. Cependant, attention, vouloir réduire la science de la Renaissance à la seule réémergence de ces idées nouvelles, atomistes, néoplatoniciennes, vitalistes, serait faux. Pour trois raisons. Premièrement, on a vu que l'explication élaborée au Moyen-Âge peut sécréter des renouvellements théoriques importants. C'est le cas de Leonardo Garzoni. Chez Leonardo Garzoni, la théorie des species donne lieu à une nouvelle théorie fondée sur la qualité à une face et à deux faces. Là, où nous sommes vraiment dans la continuité, je pense, des théories aristotéliciennes scolastiques, mais complètement transformées par une expérimentation. Deuxième remarque, les nouvelles doctrines atomistes, néoplatoniciennes, la doctrine d'Alexandre d'Aphrodite, sont connues non seulement des promoteurs des nouvelles voies philosophiques, en gros des philosophes néoplatoniciens, mais aussi détenant de la scolastique tardive, qu'on considère parfois avec mépris, un peu moins maintenant, c'est un peu moins à la mode, mais pendant longtemps on les considérait, c'était vraiment des... On voit par exemple chez les Jésuites de Coimbra. Les Jésuites de Coimbra, ils ont beau être des commentateurs tardifs de l'œuvre d'Aristote, ils sont parfaitement au courant de toutes ces nouveautés. Ils sont au courant, ils les ont comprises, ces théories, et ils les rejettent de manière parfaitement argumentée. Leurs arguments ne sont pas moins intéressants, moins valables que les arguments des tenants de ces nouvelles thèses. Troisièmement, ces nouvelles explications circulent, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont obligatoirement retenues. Il y a une grande différence, même par ceux qu'on présente comme les pionniers de la science nouvelle. C'est le cas de l'explication atomiste qui n'a pas énormément de succès. Il a un succès, mais ce n'est pas la théorie qui l'emporte, comme on le voit. Alors, j'ai beaucoup insisté sur ces explications animistes parce que l'exemple du vitalisme est intéressant, car, me semble-t-il, il brouille les schémas un peu rapides qu'on pourrait avoir sur cette succession science médiévale, science de la Renaissance, science moderne. Pour le dire brièvement, même si ça peut vous sembler une évidence, prêter une âme à l'aimant ne nous semble pas aujourd'hui spécialement moderne, disons ces termes, il faut bien le dire. C'est pourtant la clé de l'explication la plus novatrice de l'extrême fin de la Renaissance et du début de l'époque de la science moderne, à savoir celle de William Gilbert dans le De Magnete. Cette hypothèse avait été évoquée, on l'a vu, subrepticement, incidemment, par les auteurs du Moyen-Âge. J'avais essayé de traquer un peu ce qu'on disait dans le commentaire du De Anima de cette hypothèse de Thalès. Bon, c'est écarté. Mais à chaque fois, évidemment, les auteurs médiévaux avaient rejeté la thèse de l'animation, d'une part parce que cela contredisait le cadre aristotélicien, il n'y a pas de possibilité d'une âme dans des substances minérales, c'est pas possible, bien. Et deuxièmement, je l'aurais dit, cela n'avait strictement aucun intérêt épistémologique pour expliquer l'action apparemment à distance entre l'aimant et le fer. Ce rejet médiéval peut nous sembler paradoxalement, alors je vais jouer sur les termes, plus moderne que la doctrine de Gilbert en réalité. Nous semble plus familière en tout cas. Bien des auteurs de la Renaissance, néo-aristotéliciens, ou s'inscrivant directement dans la scolastique tardive, ont rejeté cette hypothèse, et ils l'ont rejetée en suivant, très souvent, l'argumentation de leurs prédécesseurs médiévaux. Voilà, donc c'était pour montrer un peu ces petits paradoxes apparents que j'avais choisi ces exemples. Je vous remercie.
Alors oui, pour ces explications sur le fonctionnement de l'aimant, c'est des explications qui se situent à un niveau, disons, des causes, donc, voire quasiment métaphysique, enfin en tout cas à un niveau élevé, disons, de la science. Et tu dis que, je voulais savoir quel est le lien qu'il y a, notamment chez Gilbert, entre cette théorie explicative, qui finalement n'est pas nécessaire pour faire les expérimentations, enfin, c'est-à-dire que on peut faire des expérimentations sur l'aimant sans avoir nécessairement une explication de pourquoi l'aimant fonctionne comme ça. Et donc, dans quelle mesure ça a une influence sur cette expérimentation ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager que, quelle que soit la théorie utilisée par Gilbert, de toute façon, ce qui l'a intéressé, c'est de voir concrètement comment fonctionne l'aimant. Et en fait, peu importe finalement que ce soit une âme ou n'importe quoi qui fait fonctionner l'aimant, puisque de toute façon, il fonctionne toujours de la même manière, en tout cas de manière régulière. Donc, quel est le lien entre les deux, si tant est qu'on puisse le déterminer, bien sûr.
Oui, c'est très difficile. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas, d'études très complètes. J'ai lu plusieurs thèses inédites sur Gilbert. Il y a, le problème, il n'y a pas vraiment... Il y a un problème de source avec Gilbert. Il cite énormément de sources, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, si on compare Gilbert à Pierre de Maricourt, Pierre de Maricourt, justement, lui, ne s'en tient qu'à l'expérimentation. Alors, c'est pour ça que toutes les questions que posent les commentateurs de la physique, ils ne s'en soucient pas. Hein. Ils disent que c'est purement expérimental. Les historiens des sciences, le problème, c'est qu'ils ont un petit peu tendance parfois à ne retenir de Gilbert justement que l'aspect empirique qui est moderno-compatible, pourrait-on dire, en oubliant ou en passant vite cette question-là. Savoir dans quelle mesure la théorie vitaliste a inspiré les théories de Gilbert, c'est une vraie question. Là, je n'ai pas d'éléments de réponse. Ce qui est sûr, c'est que vraiment, on a réussi à extraire ces expérimentations de sortir de sa gangue théorique. Mais est-ce que les deux choses existent complètement indépendamment ? Honnêtement, effectivement, c'est une bonne question. Ça mériterait une étude.
Juste par rapport à ça, ça me fait penser à Kepler, où on extrait de Kepler les lois du mouvement, en oubliant que ça, c'est presque une petite note hein, dans son énorme traité. En fait, le fait que les planètes tournent selon des ellipses, c'est une toute petite note. Et en fait, le gros de son traité, c'est quand même sur l'âme des planètes, etc. Et l'explication, enfin, Gérard Simon l'a très très bien montré, que l'explication animiste chez Kepler, elle est fondamentale, même pour penser ça. Donc on n'a pas le droit, en tant qu'historien des sciences, de séparer l'aspect... qui nous semble moderne et comme tu dis moderno-compatible avec toutes les explications autour qui nous paraissent plus étranges. Mais une autre commentaire, j'ai pas vraiment de question, mais enfin peut-être une question aussi, mais je crois que tu as très très bien expliqué avec cet exemple de l'aimant qui est finalement complexe, comme toujours c'est complexe. Comment ces différentes doctrines circulent et qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent que c'est ça qui fait avancer les choses. Je crois que ça, tu l'as très, très bien montré. Et il y a une thèse qui circule en histoire des sciences où on explique que... parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont posés la question de savoir pourquoi, à la Renaissance, on est allé rechercher aussi les textes de l'Antiquité. Et donc, il y avait une thèse qui expliquait que si on allait chercher ces textes, c'est parce qu'il y avait des questions qu'on ne savait pas résoudre et qu'on est allé chercher dans les textes antiques des réponses à ces questions. Et en fait, là, tu montres très bien avec l'aimant que ce n'est pas en allant chercher les textes antiques qu'on a nécessairement eu la réponse à une question qui est toujours quand même un peu ouverte, parce que finalement, la solution médiévale pour expliquer l'action à distance, elle n'est pas aussi convaincante que ça. Mais on voit bien que ce n'est pas en allant chercher dans les textes antiques qu'on va nécessairement avoir... la réponse à la question, tu serais d'accord avec ça
Oui, mais je pense que ça peut... Tout dépend après des auteurs, évidemment, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas réduire, mais ça, les travaux de Schmitt l'avaient montré, et bien d'autres, c'est qu'on ne peut pas réduire la philosophie de la Renaissance, même dans ses aspects les plus novateurs, au seul tenant du néoplatonisme. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, alors... certes, oui, sans doute, la redécouverte de Plotin joue un rôle important pour ces auteurs-là, mais ce n'est qu'une partie de ce foisonnement hein, de la Renaissance.
Oui. Moi, c'est une question de Béotien. Vous n'avez pas traduit Speckies, vous l'avez laissé tel quel. Je suppose que c'est pour qu'on voit toujours Speckies très proche de virtus, de force, puisque je pensais espèce, genre, c'est une catégorie logique. Donc, si on se... Enfin, là, c'est très anachronique, si je veux dire, mais après tout... si c'est un a priori de la connaissance, enfin à la Kant, quelque chose qui nous permettrait d'expliquer sans pour autant justifier la cause. Donc on serait dans un domaine beaucoup plus logique, beaucoup plus nominaliste, je ne sais pas comment dire, où il n'y aurait pas la... Mais c'est juste une explication intellectuelle, ou bien c'est expliqué, c'est la virtus, puisque vous ne l'avez pas traduit de Nicolas. Alors,
c'est une très bonne question, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment le terme sur lequel tous les spécialistes trébuchent, parce qu'en fait, c'est polysémique, et du reste, le terme spéciès, vous n'avez pas de la cognition. Oui, dans le domaine de la cognition, on retrouve exactement le terme spéciès, et d'ailleurs, dans des doctrines qui sont mises en relation avec les doctrines de l'optique. Ça, c'est très clair au XIVe siècle, ce qu'avait montré Catherine Tachau, c'est l'espèce de diffusion de cette doctrine optique dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de la connaissance, par exemple, le fait de connaître. Donc, je pense qu'il faut prudemment dire que dans l'optique, ce sont des simulacres, mais vraiment, je ne me risquerai pas à traduire spéciès. De ce point de vue-là, je sais que les spéciès, Daniel Jacquard ne le traduit jamais non plus, parce que on est sûr de se tromper, en fait, en donnant une traduction. On est à peu près sûr de se tromper. Mais oui, oui, il y a bien cette polysémie. Spéciès, oui, c'est une sorte de forme. Hein. C'est une sorte de forme. D'ailleurs, le mot spéciès était parfois, dans les traductions, quand on parlait chez Aristote de l'union de la forme manière, on trouve parfois le mot spéciès pour indiquer le mot forme. Mais traduire par ce mot forme, ce serait quand même compliqué, parce que théoriquement, la forme chez Aristote n'existe pas indépendamment de la matière, donc ça ne peut pas vraiment non plus être une forme. Donc il faut... Le mot simulacre, peut-être, serait le plus proche, mais évidemment, avec les limites hein, de ce terme. Je pense qu'il vaut mieux garder spéciès.
Tourne vers les jeunes avant de donner le micro à Pierre-Marie. J'obéis.
Moi, j'aurais une question qui nous fait sortir un petit peu du domaine technique et scientifique. Comment opéreriez-vous avec le fait qu'au milieu du XIIe siècle, Bernard de Ventadour appelle la dame aimée Moussazimans, c'est-à-dire mon aimant, et qu'il décline au moins de trois façons différentes ce nom crypté, ce nom poétique, crypté parce qu'on dit que sociologiquement le secret est au cœur de la fin d'amour, ce qui n'est pas faux, mais dans l'opération poétique elle-même, le mot est porteur évidemment de signification. Et il l'utilise à un moment pour dire, pour s'excuser auprès de son seigneur qui ne peut pas le rejoindre parce qu'il est lié à Moussazimans, à son aimant, qui l'empêche d'aller ailleurs que là où il se trouve. Ça, c'est une des déclinaisons possibles de la chose. Mais le poème central où il développe les choses, c'est le poème 29 dans l'édition ancienne de Moshe Lazar. Il dit à peu près la chose suivante. Il s'adresse à sa dame, il évoque la perfection de son poème, qui, au seuil de la mauvaise saison, est une forme de vie et d'espoir. Et il se désespère précisément du peu de réaction de sa dame devant les avances qu'il lui formule par le biais de la forme poétique précieuse qui est la sienne. Il lui dit la chose suivante: elle fera mal si elle ne m'ordonne de venir là où elle se déshabille, mal ou fera si nous manda venir là où se despouilla, afin que je sois par ses ordres près du lit, à côté du rebord, que usia per sa comanda pres de lei giusta l'espunda. Je lis la traduction, et il lui enlève ses souliers bien chaussants, à genoux et humblement, s'il lui plaît, de tendre ses pieds. Elle traia sous las bechausens, à genouilles et humiliants, s'il plats que sous spes metenda. Il poursuit dans la strophe suivante: la chanson est parfaitement achevée, sans qu'un seul mot y soit défectueux. Le vers est fait, hein, et de façon parfaite, sans que rien ne disconvienne, hein, que mots noyés dischapdoya, rien ne cloche, quoi. Il n'y a pas un mot qui cloche. Au-delà de la terre normande, outre la mer agitée et profonde, et bien que je sois éloigné de ma dame, et si me suis des midans lundans, elle m'attire vers elle comme un aimant. La belle, que Dieu veuille protéger, va sem tira cum azimans, la bella qui Dieu defenda. Donc, comment vous situeriez-vous cette problématique amoureuse, hein? Je passe par le texte de Bernard Ventadour, parce que je ne peux pas penser à sa place, sauf en le caricaturant. Et comment situeriez-vous cette problématique-là dans le concert des théories que vous avez présentées, sachant que, évidemment, quand Bernard de Ventadour met en scène la dame lointaine qu'il souhaite voir douée d'une capacité d'attraction ou d'attirance, il dialogue avec Geoffrey Rudel, qui, lui, quelques décennies plus tôt, met en place la notion d'amour des lugnes ou d'amour des terra lundagna, amour paradoxal, impossible, sauf à considérer que, ce qui est d'une certaine manière une évidence, à la façon dont l'interdit crée la transgression, le manque suscite le désir. Mais il reste un paradoxe au cœur de cet amour des lugnes, amour des terra lundagna, que, si je ne m'abuse, est-ce que ça tient le coup ou non, Bernard de Ventadour résout en mettant en avant la question de l'amant, l'amant aimé, aimanté, qui permet à la fois de maintenir cette distance, puisque l'orgueilleuse d'amour empêche le franchissement, tout en installant la relation. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais... Bon.
Je vous remercie pour ces références. Là, évidemment, ce serait avant les grandes spéculations sur l'aimant. Il y avait un article qui était paru dans Médiéval sur l'aimant, la métaphore de l'aimant dans la poésie amoureuse. Oui, évidemment, c'est une ressource de métaphore. Je pense que c'était bien, évidemment bien connu avant l'explication, mais là, on se situe avant, justement, ces débats. Voilà, alors... Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une... C'est peut-être un peu scabreux ce que je vais dire, mais disons que depuis toute antiquité, il y a un phénomène auquel tous les spécialistes, tous ceux qui font partie du débat sur l'aimant, qui parlent de l'aimant, évoquent. C'est la question que si on frotte l'aimant ou le morceau de fer avec de l'ail, ça supprime le pouvoir d'attraction. Voilà, c'est ce que je pourrais répondre. Voilà. Donc c'était. Est-ce que ça veut dire que les choses avaient été pensées comme ça, de manière métaphorique? Je ne sais pas. C'est une question qui existe.
Le fait qu'on prête un pouvoir à l'aimantation à la dame, ça s'inscrirait dans quel type de. C'est là que j'ai un peu de peine à faire le pont, si vous voulez, entre les préoccupations qui sont les miennes et.
Ah oui, mais Eltori n'était pas au moment. Que vous évoquez, j'ai bien compris, on est dans les années 1180. Là non, parce que le Averroès allait à peine être traduit. Il fallait le temps que le commentaire de la physique, le premier utilisateur, c'est Robert Grosstête dans les années 1220, par là, hein, 1230 plutôt, 1230, je ne sais plus très bien. Et en fait, il parle, il intègre la notion d'Averroès tardivement, Robert Grosstête, premier commentaire. Donc, mais avant, les explications ne sont pas du tout au point. On a quelques allusions du XIIe siècle, ces réflexions d'Alexandre Neckam sur la boussole, choses comme ça. Il n'y a pas d'explication aussi élaborée avant les commentaires du XIIIe. Donc. Je pense qu'on est dans le. Après, il faut savoir regarder la solidité de la métaphore en elle-même, peut-être. Mais je pense que pour ce qui relève de la théorie, des explications, il y avait effectivement ces notions de sympathie qu'on voit, par exemple, un peu de ci, de là, chez Neckam, par exemple, une sorte de notion un peu platonisante, mais très faite, assez vague, hein, avant les grandes réflexions du XIIIe, je pense.
Tout de même une forme de pensée.
Oui, une forme de pensée. Le micro. Peut-être justement dans des poésies plus tardives, parce que si on regarde les poésies italiennes du XIVe siècle, je pense à Donna me prega de Cavalcanti. Là, il y a des. Alors, c'est pas l'aimant en proprement parler, mais c'est des descriptions de l'attirance pour la femme qui est entièrement basée sur. Enfin, entièrement. Largement basée sur des théories de philosophie naturelle et médicale qui sont tout à fait en cours à son époque, dans les universités, etc. Donc, ça prouve qu'il y avait une possibilité de contact entre, d'un côté, des poètes Et alors, c'est des cas très particuliers. Et ce poème-là, particulièrement, puisqu'il a été commenté par un médecin de l'Université de Bologne, donc il y a un commentaire médical de ce poème. Mais ça montre que, voilà, et donc chez Dante, évidemment, il y a ce genre de choses aussi. Donc, il faudrait voir précisément si... Alors, comme les théories sont moins développées sur cette question de l'aimant, je pense, avant le XIIIe siècle, enfin, les questions sont... c'est moins approfondi, il n'y a peut-être pas une aussi grande correspondance. En revanche, peut-être sur des poésies plus tardives, puisque c'est effectivement une métaphore qui est quand même courante, peut-être qu'on pourrait trouver des choses comme ça. Donc, Cavalcanti, non, parce que lui, c'est plutôt des questions de... C'est l'aspect caisse, par contre, hein, il parle de ça, de la vertu attractive, mais pas de l'aimant qui peut y avoir entre les corps.
Il faut effectivement, je pense que tu as raison, il faut au fond qu'on ait une formation d'un milieu de clercs qui ait la même culture universitaire et qui puisse, selon les choix qu'ils ont fait dans leur vie, devenir soit poète, soit médecin, soit spécialiste de philosophie naturelle. Le 12e me semble sans doute trop tôt, mais il y avait des choses, hein, il y avait des explications, mais voilà, sous forme de notion de sympathie assez vague, en réalité, je pense avant.
Merci encore, Nicolas. On est dans les temps, c'est parfait. On fait une petite pause d'un quart d'heure. À tout à l'heure. Merci.